Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, un ministre de l'écologie, ça ferme sa gueule ou ça démissionne ? Il n'avait rien dit au président de la République ni au Premier ministre, de peur que ces derniers le convainquent de revenir sur sa décision. Nicolas Hulot a donc annoncé sa démission du gouvernement ce matin sur France Inter. « J'ai un peu d'influence, je n'ai pas de pouvoir », a constaté celui qui faisait figure de plus belle prise politique d'Emmanuel Macron il y a 15 mois. Un peu d'influence, pas de pouvoir, c'est un constat que pourraient sans doute partager quelques-uns de ses prédécesseurs. Le ministère de l'Environnement ou de l'Écologie est réputé pour être un ministère contraint, tiraillé entre des enjeux de long terme qui exigent des décisions radicales et des intérêts particuliers qui œuvrent à en limiter l'ampleur. Robert Poujade, qui exerça pour la première fois cette fonction sous Georges Pompidou, parlait d'un ministère de l'impossible confronté, disait-il, à la force d'inertie des administrations traditionnelles. C'était il y a plus de 40 ans. Depuis, la défense de l'environnement a été propulsée au rang de priorité politique, défendue par des ministres d'État. Et pourtant, c'est toujours ce constat de relative impuissance qui domine les témoignages de celles et ceux ayant exercé la fonction. Alors un ministre de l'écologie, ça ferme sa gueule ou ça démissionne ? Titre en référence à une phrase attribuée à Jean-Pierre Chevènement, c'était au début des années 80. Et pour répondre à cette question et pour interroger plus largement la place de l'écologie en politique, quatre invités ce soir, à commencer justement par une ancienne ministre, Corinne Lepage, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de CAP21, le Rassemblement citoyen. Vous avez donc été notamment ministre de l'Environnement, c'était de mai 95 à juin 97, ce qui était une période assez longue, hein, rapport à vos autres collègues qui sont passés par ce ministère, c'était sous la présidence de Jacques Chirac, et vous aviez raconté cette expérience dans un livre « On ne peut rien faire, Madame la Ministre ». C'était en 98, vous nous direz si à votre avis les choses ont changé en 20 ans. Pour discuter avec vous, Jérôme Guibert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous présidez la Fabrique écologique, qui est une fondation pluraliste et transpartisane. Vous êtes passé par plusieurs cabinets ministériels, notamment celui de Nicole Bricq, qui fut une éphémère ministre de l'écologie avant de rejoindre le ministère du Commerce extérieur pendant le quinquennat de François Hollande. Et puis deux invités qui sont au téléphone. Bettina Laville, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la fondatrice et présidente du Comité 21. Alors attention, ne confondons pas Comité 21 et CAP 21. Comité 21 qui accompagne les décideurs sur les questions de développement durable. Vous aussi, vous êtes retrouvé en position de conseiller directement des politiques, notamment François Mitterrand, sur les questions d'environnement. Et puis notre quatrième invité également au téléphone. Alors vous, Bettina Laville, je crois que vous êtes du côté de Bordeaux. Vanessa Jérôme est du côté de Londres. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes politiste, vos travaux portent sur l'engagement militant écologiste. Vous avez publié cet après-midi sur le site The Conversation démission de Nicolas Hulot, rien de nouveau sous le soleil. Et je précise que vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts. Alors, Nicolas Hulot qui annonce sa démission ce matin, ça a priori pris un peu tout le monde par surprise, y compris ses proches, puisque d'après ce qu'il a dit, personne à part lui était au courant. Quand vous avez entendu l'annonce de sa démission, Corinne Lepage, est-ce que vous vous êtes plutôt dit déjà ou est-ce que vous vous êtes plutôt dit enfin ?
Enfin. Bon, personne ne peut être dans la peau de personne. Donc je ne jugerai pas, ni de la manière, ni du moment. Mais je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien parce que on était arrivé à un niveau où l'impossibilité évidente, manifeste, qu'avait Nicolas de peser réellement sur les décisions était telle qu'il devenait une caution de quelque chose qui n'avait rien à voir avec ses propres convictions et rien à voir avec ce qui était affiché. Donc, il l'a dit lui-même, il a dit « je ne pouvais plus me mentir ».
Il dit même « je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces voilà. enjeux-là ». Donc, effectivement, caution, alibi pour le gouvernement.
Voilà, exactement. Et donc, je pense que c'est bien. Et que c'est bien, d'abord moralement, c'est bien, éthiquement. C'est très courageux, parce que c'est une décision qui est très difficile à prendre. Et je dirais que c'est bien pour la communauté des écologistes et des autres. Parce que ça nous renvoie à nos propres obligations. Si c'est pas au sein du gouvernement, et moi je le pense profondément aujourd'hui, que l'on peut avoir les bouleversements dont on a besoin, c'est au sein de la société civile, et en particulier dans l'alliance nouvelle qui est en train de se mettre en place entre la société civile et les juges. Si vous prenez la décision américaine sur Monsanto, je pense qu'elle a fait plus bouger le monde, pas seulement nous, mais le monde entier, que toutes les tergiversations inutiles que nous avons eues en Europe et en France sur le sujet du glyphosate.
Ce qui veut peut-être dire que Nicolas Hulot avait davantage de pouvoir avant d'être au gouvernement et qu'il en retrouvera davantage une fois sorti.
C'est bien possible.
Je voudrais alors poursuivre notre tour de table. Jérôme Guibert, est-ce que vous partagez le point de vue de Corinne Lepage? C'est bien ce qu'il a fait. Est-ce que vous parleriez aussi de courage? Ou bien est-ce qu'on pourrait finalement aussi dire que le courage aurait peut-être consisté, au contraire, à rester dans le gouvernement?
Moi, je le dis, je regrette la décision de Nicolas Hulot. Non pas que les décisions prises depuis un an et demi étaient satisfaisantes. Loin de là, il y a eu beaucoup de décisions négatives, quelques-unes positives. Mais il y a urgence écologique. Et à partir du moment où il y a urgence écologique, je pense qu'on ne peut pas sous-estimer qui est le mieux placé dans un contexte donné. On pourrait rêver que le contexte soit différent. Mais dans un contexte donné pour faire avancer les choses. Et de ce point de vue-là, je continue à penser que Nicolas Hulot était de loin le mieux placé. On le verra bien d'ailleurs dans les semaines à venir.
On va voir qui va le remplacer.
On verra que il y aura une très grande difficulté à le remplacer et que sur toute une série de dossiers, il risque d'y avoir des arbitrages qui ne seront pas forcément les mêmes que ceux que Nicolas Hulot en tout cas revendiquait et portait. Je le regrette, maintenant je le comprends très bien. Je comprends très bien, et c'est un choix personnel, et je comprends très bien que on se heurte parfois à des difficultés telles qu'on en tire des conclusions. Je dirais simplement que le vrai diagnostic sur cette situation, et on reviendra sur le rôle du ministère, c'est le fait que Nicolas Hulot en réalité est un homme seul. Et à partir du moment où c'est un homme seul, je ne crois pas du tout au fait qu'un homme seul puisse, à lui seul, changer les choses et inverser les politiques. Et donc, ça pose la question de la structuration de l'écologie dans notre monde politique et dans notre nation.
Alors, c'est vrai que cette solitude, c'est quelque chose qui a été évoqué, justement, par Nicolas Hulot pour justifier sa décision. Bettina Laville, vous qui avez et qui continuez de fréquenter les cercles du pouvoir, est-ce que vous avez aussi fait ce constat qu'un ministre de l'écologie, c'est souvent un ministre un peu seul et que rester longtemps dans ce ministère, étant donné cette contrainte-là, c'est particulièrement compliqué?
Oui, bah, je pense que Corinne le sait aussi bien que moi. Vous avez cité son livre où elle disait effectivement « On ne peut rien faire, Madame la Ministre ». Et je pense que c'était le cri du cœur en partant du gouvernement. Je crois deux choses. D'abord, par rapport à Nicolas Hulot, c'est la décision d'un homme honnête et qui ne peut plus supporter de ne pas être en accord avec lui-même. Contrairement à beaucoup de commentateurs, moi je trouve que ce n'est pas une surprise, même si le moment est une surprise. Hulot avait dit très clairement que l'été, il ferait le bilan de sa première année du gouvernement. Et pour la rentrée, on le cueille avec une réunion absolument impossible à supporter pour un ministre du gouvernement. Je ne parle pas des histoires du permis de chasse parce que ça, c'est vraiment de la politique aigrie, mais c'est le changement sur les espèces menacées. Alors, il faut vous dire qu'il devait ouvrir après-demain à Fontainebleau le 70e anniversaire de l'UICN, Union internationale de conservation de la nature. Comment voulez-vous qu'il se présente devant des gens qui protègent les espèces avec une décision pareille? Donc ça, c'est ma première observation. Sur le ministère, c'est un homme seul parce que c'est un homme du long terme, le ministre de l'Environnement. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand vous êtes ministre de l'Environnement, et surtout que quand vous venez de traverser cet été, je ne parle même pas des conditions météorologiques, mais je parle des rapports scientifiques qui tombent tous les 3 jours, et qui prouve l'aggravation extraordinaire du réchauffement climatique et par conséquent, et en même temps, et d'ailleurs différemment, la disparition des espèces. Eh bien, vous n'êtes pas évidemment dans le mois qui vient, l'événement politique qui vient. Vous devez avoir une vision et vous devez protéger toujours le long terme alors que les échéances sont souvent électorales. Moi, je regrette comme Géraud cette démission. Et je dirais que c'est bien comme dit Corinne Lepage, quand je serai le successeur.
Voilà, et ça devrait être donné dans les prochaines heures, ou peut-être plutôt d'ailleurs dans les prochains jours. Alors, j'ai entendu donc le mot courage du côté de Corinne Lepage, et je voudrais qu'on achève ce premier tour de table, des regrets chez Jérôme Guibert, de la cohérence finalement dans ce que vous dites, Bettina Laville. Vanessa Jérôme, vous, quel serait le mot que vous retiendriez pour qualifier cette démission de Nicolas Hulot, dont vous dites quand même, hein, je vais un petit peu déflorer peut-être votre réponse, je ne sais pas, mais dans l'article que vous avez signé cet après-midi pour The Conversation, qu'en gros, c'est un peu un non-événement.
Oui, c'est un non-événement. Je suis assez d'accord avec ce que Bettina Laville précisait là précédemment. C'est que c'est un non-événement, mais à plusieurs titres. D'abord parce que, à défaut d'avoir été annoncé, la démission de Nicolas Hulot était très largement prévisible. Il en avait déjà longuement parlé, il l'avait évoqué à plusieurs reprises. Et puis par ailleurs, c'est pas un événement dans la mesure où ça ne fait pas rupture d'intelligibilité, comme on dit, c'est-à-dire cette démission ne fait pas événement. Elle va faire parler, c'est le cas ces heures-ci et sûrement les jours qui viennent, mais elle ne va rien changer dans le fond de la structure des rapports de pouvoir dans la société et dans le monde politique. Ces rapports qui justement sont ceux qui permettraient de passer à une véritable transition écologique. Moi, ce qui m'afflige un peu dans la décision de Nicolas Hulot, et je ne sais pas s'il est question d'avoir du courage ou de ne pas en avoir, c'est que c'est un homme seul, ça a été dit, mais c'est surtout un homme humilié, et je crois que sa trajectoire ne l'a pas préparé à ça. Il est entré en politique relativement tardivement, auprès notamment de Laurent Fabius et de Jacques Chirac au début des années 2000 pour les conseiller. Il s'est longtemps préservé des vilainies du champ politique, disant lui-même à quel point ce domaine d'activité en produisait. Il a pris une claque en 2011 au moment de la primaire écologiste qu'il a perdue face à Eva Joly. Il a refusé plusieurs fois des postes de ministre et finalement il en accepte un dans une configuration qui, dans le fond, est surprenante. Je ne suis pas sûre, Nicolas Hulot est un profane presque en politique, hein, si j'ose dire, mais il n'est tout de même pas naïf. Qu'attendait-il? Quel espoir nourrissait-il alors qu'il avait pris des positions de gauche, un peu radicales, disant qu'il avait voté pour Jean-Luc Mélenchon, etc. Qu'attendait-il dans le fond de d'Emmanuel Macron et de son gouvernement qui n'a évidemment rien d'écologiste et qui est tout à fait asservi aux logiques libérales et productivistes que l'écologie entend justement dénoncer. Donc,
alors Vanessa Jérôme, par rapport à ce côté profane, ce profil profane en politique, non pas profane en matière de défense de l'environnement, ça fait évidemment des années que Nicolas Hulot est investi dans cette lutte, mais peut-être que ce peu d'expérience, en tout cas de ce que sont les arcanes de la politique, ça a pu être un manque pour lui, à votre avis, Corinne Lepage. C'est-à-dire que finalement, quand on est un ministre de l'environnement, est-ce qu'il vaut mieux avoir d'abord une très bonne expérience politique et aussi peut-être aussi d'abord des relais politiques au sein du pouvoir exécutif, au sein du Parlement et puis peut-être aussi au sein des milieux économiques, davantage qu'une pure expertise?
Alors, premier point, ce gouvernement est quand même, et c'est une particularité, c'est pas un gouvernement de politique. Vous avez très peu de gens qui ont une vraie expérience politique dans ce gouvernement. C'est très volontaire de la part du président de la République et du Premier ministre parce que effectivement, ça renforce le pouvoir politique du président de la République et qu'il n'a pas en face de lui une des fortes têtes parce qu'il n'en voulait pas. Je dirais que là où je pense que Nicolas Hulot a eu tort, c'est de ne pas chercher à créer un rapport de force en suscitant, notamment au sein de l'Assemblée nationale, où il a des amis, et dès le départ il en avait, un groupe politique.
Enfin, regardez l'état du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée
nationale.
Non, mais
je ne parle pas d'Europe Écologie, il n'y en a pas. Oui. Mais vous avez, au sein de l'Assemblée nationale, un certain nombre de gens qui sont écologistes ou proches des écologistes. Et par conséquent, on aurait très bien pu imaginer qu'un groupe, c'est 15 personnes, puissent se réunir. Et certains, je pense à François-Michel Lambert par exemple, avaient eu un peu cette idée tout à fait au début. Et puis Nicolas Hulot n'en a pas manifesté le souhait, et donc ça ne s'est pas fait. Et puis évidemment, En Marche n'en voulait pas.
Mais il a pêché par quoi dans ce domaine? Par inexpérience ou
Je pense qu'il n'a pas vu l'intérêt, qu'il s'est rendu compte, je pense,
peut-être
que le président...
par orgueil.
Le président de la République a dû lui dire que c'était pas du tout une bonne idée, et il s'est dit que sa notoriété, sa force de conviction, son honnêteté l'emporteraient, et que finalement il avait besoin de rien d'autre. Et c'est là où il a eu tort, parce qu'il n'y a pas eu ce rapport de force au sein du niveau politique, et pas beaucoup d'avantages au sein du monde de la société civile, auprès de laquelle il est très populaire, mais il l'a été de moins en moins, et la personne qui vient de s'exprimer, dont j'ai oublié le nom,
Vanessa Jérôme.
Vanessa Jérôme disait que c'est un homme humilié, je crois que c'est elle qui a employé ce terme. Et ce qui est grave dans ce qui s'est passé, j'avais eu l'occasion de le dire sur quelques plateaux, c'est qu'on a le sentiment que progressivement, le président de la République et le Premier ministre ont vidé de sa substance Nicolas Hulot. C'est-à-dire qu'à force qu'il perde ses arbitrages, il était de moins en moins important, puisqu'il perdait ses arbitrages et que finalement il ne se passait rien. Et donc, le poids qu'il représentait au sein du gouvernement progressivement s'est amenuisé, s'est beaucoup amenuisé. Si ça n'avait pas été le cas, Emmanuel Macron n'aurait pas osé faire ce qu'il a fait hier sur le fond dont parlait Bettina et sur la forme, c'est-à-dire de le recevoir avec un lobbyiste.
Est-ce que, justement, cette perte progressive d'influence, ça participerait de cette fatalité du ministère de l'écologie que vous évoquiez ce matin dans un tweet, Giro Guibert, en posant la question « Y a-t-il une fatalité du ministère de l'écologie dans notre pays ?» Sans doute.
Et oui, parce que quand on regarde, quand on regarde l'histoire, c'est quand même très éclairant, parce qu'on voit que dans toute une série de ministres de l'écologie, pas tous, mais beaucoup, ont été soit démissionnaires, soit démissionnés, soit ont conclu à leur impuissance, soit n'ont pas fait de politique écologique. Ça a pu arriver aussi.
Je ne mettrai pas de nom derrière,
mais ça a pu arriver.
Je rappelle en début d'émission, Giro Guibert, que vous avez été directeur du cabinet de Nicole Bricq, ministre de l'Environnement, pendant quelques jours. Il faut peut-être rappeler pour quelle raison elle
pendant
avait
deux, pendant
dû
un mois et demi et
partir. Elle avait pris une décision qui n'avait pas beaucoup plu.
C'est vrai qu'à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, c'est assez amusant, parce qu'amusant si on peut dire. Mais c'est vrai qu'il y a eu un épisode sur les permis pétroliers en Guyane, y compris vis-à-vis de lobbyistes pétroliers, dont j'ai un souvenir extrêmement précis, et que le gouvernement de l'époque...
Elle décide de le suspendre.
Elle me demande de ne pas recevoir, et j'approuve cette décision de ne pas recevoir les lobbyistes pétroliers, en considérant que ce n'est pas aux lobbies qui doivent dicter sa politique, qu'on peut discuter avec les entreprises pétrolières, mais pas aux représentants des lobbies. Et cette décision, qui était après tout le début de quelque chose, mais qui laissait la porte ouverte à des négociations qui auraient pu être peut-être fructueuses pour faire évoluer les choses, ne plaise pas au président de la République de l'époque et au Premier ministre, et donc elle est changée de ministère. Donc c'est assez éclairant parce que ça montre que le ministère de l'écologie, comme ça l'a très bien théorisé dès le départ, ça peut être le ministère de l'impossible. Il faut que ce soit le ministère des possibles. Mais pour ça, il y a un certain nombre de conditions. Et en particulier, la condition, c'est que sur chacun des dossiers difficiles, il est absolument essentiel de construire un rapport de force qui soit suffisant. C'est pas facile, ça peut pas se faire à chaque fois, mais je pense que de ce point de vue-là, il y a une responsabilité de tout le monde, à la fois de la société civile, de nous, y compris des fondations, y compris des ONG, y compris mais aussi évidemment des élus en charge, de construire ce rapport de force, car quand on éclaire l'opinion publique explicitement sur les enjeux d'un dossier, à ce moment-là, l'arbitrage devient beaucoup plus facile.
Sur cette question du poids des lobbies, dans le livre que j'évoquais, dans lequel vous racontiez votre expérience, Corinne Lepage, il y a 20 ans, on ne peut rien faire, Madame la Ministre. Je vais vous faire une confidence, je ne l'ai pas relu. Mais sur la quatrième de couverture, voilà ce qu'on peut lire. La réalité, c'est que les ministres sont sous haute surveillance, que les grands corps sont des potentats qui font leur propre politique sans rendre de compte à personne, que certains lobbies exercent par personne interposée un pouvoir de blocage absolu, que l'environnement est détesté par les autres ministères qui sont prêts à torpiller avec acharnement toutes ces initiatives. Ça, c'était en 98, 20 années ont passé. Mmh. Est-ce que cette quatrième de couverture pourrait être rééditée telle quelle, à votre avis?
Oh, je pense que ça n'a pas beaucoup évolué, hein, très franchement. Bon, on parlait hier de Thierry Coste, j'en parle dans mon livre, je l'avais déjà eu en face de moi à l'époque. Alors, en prenant ce titre, je voulais pas dire que j'avais rien fait, je voulais pas me tirer une balle dans le pied, mais expliquer que quand on commençait à vouloir changer quelque chose, la réponse qui venait, c'est pas possible. C'est jamais possible. C'est jamais possible parce que ça s'est pas fait, parce qu'on n'a pas les moyens, parce que machin veut pas, parce que le ministère d'autres trucs veut pas, parce que ça va heurter tel intérêt, etc. Et ce n'est pas possible, il est porté effectivement par tous ces gens dont on parle dans la quatrième de couverture.
Le poids des lobbies, Bettina Laville, c'est un poids qui est très important, qu'on sous-estime peut-être sur les questions justement d'environnement.
Oui, les lobbies sont importants. Moi, je trouve qu'ils sont un peu moins importants qu'auparavant, parce que la conscience écologique a quand même beaucoup monté dans l'opinion et même dans les milieux gouvernementaux. Alors, vous avez deux lobbies qui sont encore d'une force tout à fait extraordinaire. Vous avez le lobby des chasseurs, et Thierry Coste est un lobbyiste brutal. Et vous avez, d'autre part, le lobby du nucléaire. Ça, c'est deux lobbies qui restent. Les autres font quand même beaucoup plus attention. Mais je crois vraiment que le problème de Nicolas Hulot, c'est que il l'avait dit d'ailleurs dans un de ses livres, et en particulier dans le Grenelle de l'environnement, il pensait qu'on pouvait avoir du pouvoir et de l'influence quand on était très proche du président de la République. Ce qui s'est passé par exemple avec Lalonde. Moi, j'ai été directrice de cabinet de Lalonde, et Lalonde avait la confiance de Rocard, et aussi celle de François Mitterrand. Et on a pu prendre un certain nombre de décisions à l'époque importantes. La deuxième question pour le ministère, c'est que tous les écologistes ont été tellement ravis, se sont félicités du grand ministère de l'Environnement, parce que grand, pour eux, ça veut dire de qualité. Eh bien non, un grand ministère de l'écologie, c'est un ministère qui est libre de se battre avec les autres. Et quand vous avez les lobbies de l'énergie, les lobbies de l'équipement et l'écologie qui est dans le même ministère, l'écologie perd au sein même du ministère, avant même d'aller à Matignon. Et ça, c'est un problème de structure gouvernementale énorme, mais malheureusement, c'est inaudible pour beaucoup d'ONG.
Vanessa Jérôme, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Et est-ce que, pour poursuivre peut-être aussi un petit peu la réflexion, est-ce qu'on peut pas aussi considérer que Nicolas Hulot, s'il jouissait certes d'une très forte popularité, je ne sais pas si ce sera encore le cas après sa démission, mais dans l'opinion publique, est-ce qu'il n'a pas peut-être manqué un peu du soutien des nombreuses associations qui sont très actives dans le domaine de l'environnement?
Écoutez, moi je crois qu'effectivement Nicolas Hulot paye là quelque chose, c'est-à-dire qu'il a fait la douloureuse expérience que la notoriété, voire même la sympathie, hein, ça ne fait pas l'influence et encore moins l'efficacité politique. Ça, je crois qu'il l'a clairement compris. Je crois qu'il paye aussi le fait qu'elle comprend qu'il y a des limites assez rapides, hein, à l'inexpérience politique, une sorte finalement d'invertébration idéologique. Hein, le nini, ça ne mène à rien, on l'entend là très bien. Faire de l'écologie, c'est s'opposer à tout un tas de forces économiques qui sont évidemment importantes et qui, elles, pèsent très clairement, hein, sur la politique gouvernementale. Et puis, je crois que son incapacité, hein, à gagner des arbitrages veut dire effectivement que d'une part, eh bien, à se prétendre ou à se vouloir un peu trop haut en-dessus des partis, des associations, des regroupements, les prendre un petit peu de haut, ça ne mène à rien, et ça ne mène à rien, d'autant plus que nous sommes dans une société française où les Français sont prêts pour l'écologie est en réalité un mantra. Il n'est pas encore extrêmement coûteux en France de se déclarer écologiste sans avoir rompu, ne serait-ce que cosmétiquement, hein, avec des comportements très prédateurs, aussi bien en ressources naturelles qu'en ressources humaines. Donc je crois que l'expérience que vient de faire Nicolas Hulot, et qui est assez semblable de celle effectivement d'autres ministres de l'environnement, c'est que la France, en tout cas au niveau de l'exécutif national, n'est pas prête pour l'écologie, alors qu'elle l'est par ailleurs, notamment sur les territoires, hein, les régions, les communes, où les écologistes, de quelque obédience qu'ils soient, réussissent bien mieux finalement à influencer les politiques publiques locales.
Vous êtes d'accord, Corinne Lepage ?
Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je suis d'accord aussi avec ce qu'a dit Bettina Laville, qui est très important. Deux mots sur chacune de ces deux interventions. Quand je parle de société civile, et que je disais tout à l'heure que cette alliance qui se fait, la société civile, pour moi, c'est les grandes villes, pour commencer. Regardez ce que fait le C40 au niveau du climat, ou au niveau porter plainte à Bruxelles pour le diesel. C'est les grandes villes européennes qui ont fait ça. Ce sont les entreprises qui sont en mouvement, qui ont changé, qui ont décidé de le faire. Ce sont bien entendu les ONG. Ce sont tous nos concitoyens qui sont dans le changement et qui mènent ce changement. Donc je crois qu'effectivement, c'est là aujourd'hui que ça se passe. Ce qu'a dit Bettina me paraît...
Et au niveau européen aussi, sans doute, d'ailleurs.
Et au niveau européen aussi. Ce qu'a dit Bettina est majeur. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, au sein du ministère de l'écologie, vous n'avez même pas une direction générale de l'écologie. Ça n'existe pas. Vous avez une direction des habitats qui regroupe ce qui est naturel et les habitats urbains. C'est-à-dire que les routes ont gardé leur direction, l'aviation civile a gardé la sienne, l'énergie a gardé la sienne. La seule qui n'existe plus en tant que telle, c'est l'écologie au sein du ministère de l'écologie. C'est pas possible. Ça veut dire que les arbitrages se font en interne, même pas forcément au niveau du cabinet du ministre, et que par conséquent, hyper perdant. Donc moi, je crois qu'il faut aller sur une toute autre organisation gouvernementale. Alors, ça peut paraître absurde parce qu'effectivement, beaucoup d'écologistes disent c'est formidable, c'est un ministère d'État, c'est le plus grand ministère, il couvre tout. Ouais, mais quand vous couvrez tout et que vous ne pouvez pas faire grand-chose, c'est pas très intéressant.
Au-delà des questions de personnes, il y a la question de l'organisation qui est importante, Jérôme Guibert.
Moi, il y a deux aspects, oui, complémentaires, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, mais il y a deux aspects complémentaires qui me paraissent tout à fait décisifs. D'abord, un aspect qui concerne nous, les gens qui veulent, qui sont attachés à l'écologie. Trop souvent, les écologistes parlent du global et du local. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, ils ont raison. Il y a un problème global de climat, il y a des réalités locales qui doivent s'incarner. Mais quand on dit ça, on donne l'impression de sous-estimer totalement le niveau national. Et je crois que c'est une très grave erreur. Et que la démission de Nicolas Hulot, les difficultés du ministère de l'écologie, c'est aussi ça. C'est aussi la responsabilité de nous, les écologistes, de poser les questions de politique écologique nationale et européenne beaucoup plus clairement que ça n'est fait aujourd'hui, et de montrer l'importance de ce niveau. La deuxième remarque que je voulais ajouter, dans la ligne d'ailleurs de ce que vient de dire Corinne, c'est le problème particulier français de ces élites. Car là, c'est aveuglant. Il y a un problème aujourd'hui des élites françaises et de la réticence, pour ne pas dire plus, de la quasi-totalité des élites françaises. J'en ai, moi, le témoignage de dizaines de témoignages, la quasi-totalité des élites françaises au raisonnement écologique. C'est très frappant, y compris par rapport à d'autres pays, quand vous voyez. Alors, c'est vrai sur les élites politiques, c'est vrai sur les élites administratives, c'est moins vrai aujourd'hui sur les élites économiques, sur lesquelles les évolutions commencent à se faire de manière beaucoup plus nette. Mais il y a un problème de structuration de la pensée des élites françaises, qui est traditionnellement centralisatrice, attachée à toute une série de secteurs productivistes, fondée sur des grands corps élitistes, et qui fait que les réalités de terrain et les réalités du long terme passent trop souvent à l'as. Et donc il y a une vraie réflexion, je pense, à faire pour voir comment on arrive à modifier cette situation.
Voilà, donc une organisation de l'État, des territoires, organisation aussi institutionnelle, qui n'est peut-être pas très favorable, alors on le sait en tout cas d'un point de vue électoral, justement, au mouvement.
La formation, hein,
voilà, écologiste, et puis la question de la formation. Bettina Laville, vous vouliez réagir ?
Moi, je voudrais ajouter deux choses. D'abord, Corinne a dit que ce qui comptait, c'était la société civile. Je suis d'accord. Moi, j'ai fondé le comité 21, qui est vraiment l'émanation de la société civile il y a très longtemps, après la conférence de 92. Ce que je pense qui est très important, c'est une nouvelle alliance de la société civile et de l'État. parce qu'on a besoin de l'État, on a besoin d'une politique économique. Le problème aujourd'hui qu'a eu Nicolas Hulot, c'est la cécité de Bercy en ce moment, sur tout ce qui est écologique. Et ça, c'est un vrai problème, alors qu'il faut une transformation économique très, très importante.
Vous dites on a besoin de l'État, mais est-ce qu'on a besoin d'un ministère de l'écologie ?
Oui, on a besoin d'un ministère de l'écologie, mais pas d'un ministère qui noie l'écologie dans ce que Jérôme vient de décrire, c'est-à-dire des grands corps qui continuent de faire ce qu'on appelle des travaux publics.
Vanessa Jérôme, il y a quelques figures de l'écologie politique française, en tout cas, qui ont marqué la vie politique française. Je pense par exemple à Cécile Duflot et à Pascal Canfin, qui ont fait le choix récemment de continuer toujours à mener la lutte pour la défense de l'environnement, mais en dehors du champ politique. Cécile Duflot a rejoint l'organisation Oxfam, Pascal Canfin le WWF. Est-ce que on pourrait aller jusqu'à considérer que finalement, quand on veut avoir de l'influence, qui revient un petit peu à ce qu'on disait au début, il vaut peut-être mieux être en dehors du pouvoir politique qu'à l'intérieur, et que peut-être finalement que Nicolas Hulot, maintenant qu'il est sorti du gouvernement, il va retrouver une influence qu'il avait perdue en y étant?
Alors en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si on revient un petit peu sur les sources idéologiques, dans le fond, l'imaginaire hein, qui fonde l'écologie, le niveau national est particulièrement absent. Hein. En gros, il n'y a pas de discours écologiste sur l'État-nation. L'État, la nation, l'État c'est au mieux le vieux complexe militaro-industriel, pas transparent, etc. Et l'État, dans le fond, une unité qui est plutôt créatrice de conflits. Les écologistes sont très favorables à l'ouverture des frontières, à l'immigration, à tout un tas de choses qui vont mal finalement avec l'idée d'un État-nation bordé, sécurisé. Bon. Par ailleurs, effectivement, ça a été dit, hein, les écologistes sont assez peu issus des grands corps de l'État, de cette élite qui, justement, en France, fait l'État. Je crois que ce qu'il faut faire attention, ce à quoi il faut faire attention, c'est de pas confondre, de pas décréter que l'échec de Nicolas Hulot serait celui de l'écologie politique tout entière. C'est éventuellement d'ailleurs plus l'échec de la politique en tant que telle que de l'écologie. La politique au sens où effectivement, et vous le notiez avec Cécile Duflot et Pascal Canfin, mais d'autres, on finit par se dire de la même manière qu'on dit oui, tous les écologistes ne sont pas dans le principal parti écologiste ELV, eh bien tous les écologistes engagés, motivés, ne sont finalement pas dans l'État. Ils sont à côté. Moi, je pense à tous ces jeunes, mais pas que, tous ces militants engagés qui font l'écologie au quotidien, sur lesquels effectivement Nicolas Hulot aurait peut-être pu plus s'appuyer, et qui dans le fond sont des démobilisés, non pas de la politique, mais de la participation politique conventionnelle. Et moi, ce que je crains, et c'est peut-être finalement la leçon qui risque d'être tirée de l'échec de Nicolas Hulot et de tous les ministre de l'écologie avant lui, c'est que l'État est impuissant, l'État ne peut rien, l'État n'est pas l'instance qui permettra la transition écologique de la société et la survie de l'humanité sur cette planète. Donc, dans le fond, tous ces échecs, je n'aime pas le mot, mais je vais l'employer pour faire vite, risquent de créer des formes de radicalisation de l'action politique qui sont justement la marque du fait qu'on ne croit plus dans cette action, en tout cas au sens conventionnel et étatique du terme.
Sauf à considérer peut-être, Jérôme Guibert, que cette démission de Nicolas Hulot agisse comme un électrochoc. C'est ce que dit le député de La République En Marche, Mathieu Orphelin, qui est son ancien porte-parole lorsqu'il dirigeait sa fondation. Voilà, ça va agir un électrochoc, ça devrait agir en tout cas comme un électrochoc pour tout le monde, une prise de conscience. Est-ce que vous y croyez ça? Est-ce que finalement ce serait une forme de sacrifice pour la bonne cause?
Moi, j'ai jamais été favorable à la politique du pire, donc je pense que j'espère qu'il y a une chance d'électrochoc. Je pense que nous tous, il faut qu'on se mobilise pour qu'il y ait un électrochoc en effet, et que en effet, compte tenu de ce qui s'est passé, les futurs arbitrages et décisions prises soient favorables à l'écologie, alors qu'on peut craindre qu'il y a des dossiers énormes qui sont devant nous et qui devraient être arbitrés dans les prochaines semaines. Je les rappelle, la programmation pluriannuelle de l'énergie, les arbitrages budgétaires, y compris sur la biodiversité, la loi sur la mobilité. Donc il y a des arbitrages extrêmement importants pour l'écologie qui sont devant nous dans les semaines à venir. Il faut espérer en effet qu'il y ait un sursaut et que l'électrochoc de la démission de Nicolas Hulot permette ce sursaut. On ne peut pas prévoir ça à l'avance. Mais disons que je le souhaite profondément, bien sûr.
Ce serait quoi le bon profil pour celui ou celle qui va succéder à Nicolas Hulot, Corinne Lepage?
Très difficile. Très difficile. Moi, je pense que ce serait mieux que ce soit quelqu'un qui soit un politique aguerri et qui soit profondément convaincu de l'importance et de l'urgence de l'enjeu écologique, parce que remettre un écologiste, quel qu'il soit, d'abord trouver un écologiste qui accepte de succéder à Nicolas Hulot, c'est pas tout à fait évident. Si on est convaincu, je suis pas sûre qu'on veuille y aller, mais en admettant que, il aura les mêmes difficultés, voire bien pire, parce qu'il n'aura pas la notoriété de Nicolas Hulot. Et,
politique aguerrie, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir, par exemple, déjà exercé ce ministère?
Oh, pas forcément.
Je sais pas si vous voyez à qui je pense.
Oui, je vois à qui. Non, à moi non. Ah ben, non, mais à moi non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas pour deux raisons. Je ne veux pas parce que je n'y crois pas. Pourtant, j'ai soutenu Emmanuel Macron, mais je ne crois pas que ce gouvernement veuille vraiment aller dans le sens qui, moi, me paraît indispensable, que ce soit sur la programmation de l'énergie ou que ce soit sur les questions de santé publique, pesticides et le reste. Donc, c'est pas la peine de se heurter à un gouvernement dont je sais dès le départ qu'il ne sera pas sur la même longueur d'onde. Donc, ça ne marchera pas. Et deuxièmement, à titre personnel, je pense que ce que je fais aujourd'hui, des dossiers que je mène en tant qu'avocate, ce que je fais dans la société civile, avec les associations dont je m'occupe, que ce soit Justice Pesticides ou d'autres, avec la Déclaration universelle des droits de l'humanité, c'est beaucoup plus efficace que ce que je pourrais faire comme ministre. Et à l'âge que j'ai, croyez-moi, ce qui est important, c'est l'efficacité, c'est pas le reste.
Bah, du coup, ça revient à la question que je posais tout à l'heure à Bettina Laville. Finalement, est-ce que ce ministère, il est si indispensable que ça? Jérôme Guibert?
Oui, il est indispensable, bien sûr, puisqu'il y a toute une série de décisions qui, encore une fois, doivent être prises au niveau national. Et donc, moi, je ne suis pas du tout à renoncer, parce que ça pourrait être la tentation.
Oui, mais on pourrait considérer, par exemple, que ça fasse partie des attributions du Premier ministre, avec, bien sûr, des conseillers, et que ce soit vraiment pris comme une véritable cause nationale, justement, en le mettant directement sous l'autorité du chef de gouvernement.
Je sais que les ONG, certaines ONG considèrent que ce serait la bonne solution. Moi, je suis tout à fait opposé à cette solution, pour une raison très simple, c'est que le Premier ministre, d'abord, il a beaucoup de chats à fouetter et donc ce sera la dernière roue du carrosse. Et deuxièmement, les arbitrages qu'il rendra seront des arbitrages qui seront très largement budgétaires, etc. Mais il n'aura pas de contrepoids écologique.
Donc
je suis tout à fait opposé à cette solution.
Avec ce qui vient d'être dit, c'est pas du tout une bonne idée. Vous voyez bien que l'idée de faire un ministère, de faire de Matignon le ministère du développement durable couvrant tout, ça serait possible si on était dans un pays qui considère qu'effectivement, c'est la cause nationale prioritaire.
Bon. Bah, c'est quand même ce qu'on entend dans le discours, en tout cas.
Oui, dans le discours, mais enfin, vous voyez bien que dans les actes, ça n'a rien à voir. Par voie de conséquence, pour ma part, je considérais que c'est un enterrement de première classe. Mais je conçois qu'on puisse avoir un autre avis.
Vous avez un autre avis, justement, Vanessa Jérôme, et ce sera la conclusion de cette discussion.
Écoutez, moi, je pense que la transition écologique, ça passe par une transformation démocratique et que on peut à tous les moins déduire du passage de Nicolas Hulot dans ce ministère que ce n'est pas peut-être par le haut de l'État que cette transformation démocratique adviendra et que, par définition, je crois que la mobilisation d'une pluralité d'acteurs complémentaires est sûrement, je ne sais pas si c'est plus efficace, mais à tout le moins nécessaire et que le temps presse.
Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Corinne Lepage, Vanessa Jérôme, Bettina Laville et Jérôme Guibert. Discussion que l'on peut retrouver comme chaque soir sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Vous pouvez réécouter l'émission, vous pouvez la télécharger quelques minutes après sa fin. Vous pouvez également nous écrire sur la page de l'émission. Merci à toute l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Fanny Richet, Virginie Leduo, Antoine Dulster, Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Alexandre Fougeron avec à la prise de son Jean Guilin à Meige.